Et nous allons commencer ce dimanche une série dans un livre biblique de l'Ancien Testament, le livre de l'Exode. Et c'est un livre vraiment riche d'enseignements. Peut-être vous êtes fan de cette grande épopée qu'on peut retrouver dans des films comme Le Prince d'Égypte, ou pour les plus anciens, Les Dix Commandements, voilà, les grands films des années 50. De Moïse qui va délivrer, qui va conduire le peuple, qui va sortir d'Égypte. Et au-delà du fait que c'est une histoire assez incroyable, ce livre est d'une importance capitale pour le peuple d'Israël déjà. Tout au long de l'Ancien Testament, nous retrouvons ces rappels des prophètes. Nous étions esclaves en Égypte. Et Dieu nous a délivrés. C'est plus ou moins l'événement fondateur, le salut accordé par Dieu alors qu'ils étaient en Égypte et comment il les a emmenés dans la terre promise. En fait, si on devait prendre un mot-clé pour ce livre de l'Exode qu'on va parcourir ensemble au fil des semaines, c'est le mot de rédemption. L'Exode, c'est une histoire de rédemption, c'est-à-dire l'histoire d'une libération de l'esclavage. Mais pas seulement. C'est un livre qui nous parle pas seulement des circonstances qui ont conduit ce peuple d'Israël à être libéré du joug de l'esclavage pour traverser la mer Rouge et entrer ensuite dans la terre promise, mais c'est aussi l'histoire de la conclusion d'une alliance entre Dieu et un peuple. Conclusion d'une alliance, c'est l'histoire d'un Dieu qui donne sa loi, qui donne sa parole pour son peuple. C'est un livre qui nous parle de la présence de Dieu parmi son peuple. Avec cette partie qui nous parle du tabernacle, ce lieu où Dieu se rendait présent. Donc un livre d'une importance capitale pour le peuple d'Israël. Mais c'est aussi un livre essentiel pour éclairer le sens du Nouveau Testament. Ce Nouveau Testament qui montre en la personne de Jésus l'aboutissement de toute l'histoire d'un peuple, de toute l'espérance d'Israël, qui donne un sens renouvelé, éclairé en sa personne. Il suffit de prendre quelques thèmes qui sont couverts par l'Exode pour comprendre en quoi l'Exode sert de fondement et de clé de compréhension du Nouveau Testament. La libération de l'esclavage, par exemple. Cette libération du joug égyptien va nous envoyer plus loin à la libération d'un autre esclavage ô combien plus fort et qui touche tous les hommes. C'est l'esclavage du péché, c'est l'esclavage de cet asservissement au mal. L'Exode est cette fondation qui va nous parler de cet accomplissement bien plus grand au travers de Jésus, le libérateur. Jésus, ce nouveau Moïse, qui va apporter la parole de Dieu, qui est lui-même la parole de Dieu. Ce Jésus, le Christ, le Messie, qui va sceller lui aussi une alliance par le sang, comme autrefois le sang de l'agneau qui avait été placé sur les linteaux des portes pour être le salut de tous les Israélites. Ce sang de l'agneau, eh bien, nous renvoie à Jésus-Christ, qui est désigné dans le Nouveau Testament comme l'agneau pascal, dont le sang permet la libération, dont le sang permet la victoire. Jésus, le Christ, le Messie, qui va mener son peuple vers un nouvel exode, vers une terre promise, pour tous ceux qui lui appartiennent, pour son peuple, pour une espérance qui transcende la mort, et qui nous parle d'une terre promise qui est bien plus que ces kilomètres carrés dans une terre en Canaan. Tout le Nouveau Testament prend son sens quand il y a le fondement de l'Ancien Testament. On ne peut pas dissocier l'un et l'autre. Et nous croyons que toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, est inspirée de Dieu et utile pour notre compréhension de qui est Dieu. On ne peut pas enlever l'un et garder l'autre seulement. Alors, je vous invite maintenant à lire ensemble le début de ce texte dans le livre de l'Exode. Exode chapitre 1, j'ai pas noté le numéro de la page, c'est certain nom dans les Bibles rouges de l'Église. Page 62. Voici la liste des fils d'Israël qui ont accompagné Jacob en Égypte, chacun avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi et Judas, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Aser. Les descendants de Jacob étaient au nombre de 70 en tout, Joseph étant déjà en Égypte à ce moment-là. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute leur génération. Les Israélites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants, si bien que le pays en fut rempli. Je m'arrête là pour l'instant. Le début de ce livre nous montre une continuité avec le livre précédent, le premier livre de la Bible du Pentateuque, le livre de la Genèse. Le premier verset, voici la liste des fils d'Israël qui ont accompagné Jacob en Égypte, reprend mot pour mot le texte de Genèse, chapitre 46, verset 8. Alors pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le livre de la Genèse, en une cinquantaine de chapitres, ce livre nous relate l'origine de l'humanité, l'histoire de l'humanité, ça c'est dans les 11 premiers chapitres en particulier, et puis ensuite l'histoire se focalise sur un homme, Abraham, que Dieu choisit et à qui Dieu va faire des promesses. Et en particulier, il va lui promettre que de lui sortira un peuple, il va lui promettre qu'il lui donnera une terre, il va lui promettre qu'il sera source de bénédiction pour tous les peuples. Nous avons donc l'histoire de cet homme, Abraham, et puis ensuite de ses descendants, Isaac, le fils justement de la promesse de Dieu qu'il a eue dans sa vieillesse, et puis ensuite Jacob, et puis ensuite les 12 fils de Jacob qui sont mentionnés ici dans le début du texte, dont un sur lequel la Genèse va s'arrêter beaucoup plus largement, qui est Joseph, que Dieu va utiliser comme un moyen de salut, et qui va conduire toute cette famille de Jacob jusqu'en Égypte afin de survivre à la famine qui sévit en Canaan. Et c'est là qu'on arrive à notre texte. Donc, ce livre de l'Exode est intrinsèquement lié avec, c'est le prolongement, c'est la continuité de l'histoire de la Genèse. Et nous assistons dans le début de ce chapitre au début de l'accomplissement de certaines promesses faites à Abraham. Et nous voyons cette famille dont il nous est dit qu'ils étaient au nombre de 70 lorsqu'ils sont venus s'installer en Égypte avec Jacob. Eh bien, cette famille devient une nation. Cette famille devient un peuple. Le texte de l'Exode nous dit quelques chapitres plus loin le nombre d'hommes qui ont été dénombrés au moment de la sortie d'Égypte, 600 000 hommes, ce qui signifie, lorsqu'on ajoute les femmes et les enfants, probablement autour de 2 millions de personnes. Nous voyons ici la multiplication de ce peuple, l'accomplissement de cette bénédiction divine. Et il y a tellement d'écho avec le livre de la Genèse. Cette multiplication nous renvoie bien évidemment à ce que Dieu dit dans Genèse chapitre 1, lorsqu'il demande à l'homme et à la femme, à Adam et Ève, et qu'il les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre ». Nous voyons ici la marque de cette bénédiction divine. Le texte répète les Israélites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants. Il y a même la reprise textuellement de certains mots là de Genèse chapitre 1. Nous lisons la suite du texte à partir du verset 8. Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il ne connaissait pas Joseph. Il dit à ses sujets, « Voyez, le peuple des Israélites est plus nombreux et plus puissant que nous. Il est temps d'aviser à son sujet pour qu'il cesse de se multiplier. » Sinon, en cas de guerre, il risque de se ranger aux côtés de nos ennemis et de combattre contre nous pour quitter ensuite le pays. Alors on imposa aux Israélites des chefs de corvée pour les accabler par des travaux forcés. C'est ainsi qu'ils durent bâtir pour le pharaon les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de centre d'approvisionnement. Mais plus on les opprimait, plus ils devenaient nombreux et plus ils se répandaient, au point que les Égyptiens les prirent en aversion. Alors ceux-ci les réduisirent à un dur esclavage et leur rendirent la vie amère par de rudes corvées. Fabrication de mortiers, confection de briques, travaux en tout genre dans les champs, bref, toutes les tâches auxquelles on les a servis avec cruauté. Il y avait deux sages-femmes pour les Hébreux. Elles se nommaient Shifra et Pua. Le pharaon leur donna cet ordre. Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous aurez constaté le sexe de l'enfant, si c'est un garçon, mettez-le à mort. Si c'est une fille, qu'on la laisse vivre. Et les sages-femmes craignaient Dieu. Elles n'obéirent pas au pharaon. Elles laissèrent la vie sauve au garçon. Alors le pharaon les convoqua et leur demanda « Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous laissé vivre les garçons ?» Les sages-femmes répondirent au pharaon « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont pleines de vie. Avant que la sage-femme arrive auprès d'elles, elles ont déjà mis leur enfant au monde. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple continua de se multiplier et devint extrêmement puissant. Comme les sages-femmes avaient agi par crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alors le pharaon ordonna à tous ses sujets « Jetez dans le fleuve tous les garçons nouveau-nés des Hébreux, mais laissez vivre toutes les filles. » Dans une terre étrangère, ce peuple d'immigrés vient à subir l'oppression, un dur esclavage. Ce peuple d'immigrés s'est multiplié et vient à poser un problème au pharaon. Ce pharaon, que certains essayent d'identifier, c'est pas évident, il y a plusieurs hypothèses, n'a pas connu Joseph, ni aucun de toute sa génération. Et du coup, il a oublié la dette qu'il a envers eux. Joseph avait été source de salut pour tout le peuple égyptien aussi, en révélant ce que Dieu allait faire, qu'il allait, le pays allait traverser une dure période de famine, et donc, grâce à Joseph qui avait été éclairé par Dieu de tout cela, il avait été possible de stocker pendant des années des réserves afin de subvenir aux besoins durant la famine. Et tous avaient été sauvés par là. Mais plusieurs siècles maintenant séparent Joseph de ce pharaon. Le texte en Genèse 15 nous parle de 400 ans en Égypte. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Il l'avait annoncé. Alors le pharaon met en place des plans de plus en plus cruels pour régler le cas de ce peuple. D'abord des durs travaux, une exploitation, afin de tirer le maximum de ce peuple qui peut-être nous encombre ou est une menace potentielle. Puis un cran plus loin encore, la mise à mort planifiée en demandant aux sages-femmes de tuer tous les nouveau-nés de sexe masculin, donc potentiellement ceux qui pourraient devenir une force militaire. Devenu plus grand. Et puis enfin, à la fin de ce chapitre premier, carrément un décret pour inciter tous ses sujets à mettre à mort les nouveau-nés garçons en les jetant dans le grand fleuve, dans le Nil. En fait, le texte est très sobre, mais décrit une réalité insupportable, une souffrance terrible pour Israël. Et ce texte, même dans la manière dont il est agencé, va susciter le questionnement parce que le ciel semble silencieux. D'ailleurs, la situation semble aller de mal en pis. La haine, l'aversion des Égyptiens envers ce peuple s'accroît. L'intensité de cette violence, de cette oppression va en augmentant au fil du texte. Et la question c'est, mais où est Dieu ? En effet, la Bible à aucun moment ne va laisser entendre que ce qui arrive au peuple d'Israël à ce moment-là est causé par un péché quelconque. La Bible ne donne pas une raison de ce type-là. A contrario, nous savons que Israël et ses enfants, Jacob et ses enfants, sont venus en Égypte d'après une directive divine. Autant Dieu avait demandé à Abraham de ne pas se rendre en Égypte, etc. Il fallait la terre promise étant Canaan. Mais lorsque Jacob est venu, c'était selon une directive divine. Et Dieu avait donné la promesse à Jacob qu'il reviendrait, que son peuple reviendrait d'Égypte. Et c'est ainsi que Jacob et les siens se sont rendus en Égypte et de cette façon ont échappé à la famine terrible qui sévissait en Canaan et qui rendait leur mort certaine s'ils y restaient, de toute façon. Et dans ce texte, Dieu semble absent. Dans ce début du livre, Dieu semble absent. Le récit ne montre pas Dieu en action lui-même. Il y a seulement un passage où il est mentionné de façon indirecte, c'est lorsque les sages-femmes, il est indiqué qu'elles craignaient Dieu. Pour le reste, nous voyons simplement une intrigue avec des personnages qui agissent, mais on ne voit pas Dieu à l'œuvre. Se demander où est Dieu ? Où est Dieu dans telle ou telle circonstance difficile, éprouvante de la vie, n'est pas en soi le signe d'une immaturité spirituelle ou du fait qu'on a complètement mis Dieu de côté. On a de nombreux exemples dans la Bible, par exemple dans l'Ancien Testament, de personnes qui crient à Dieu, qui ne comprennent pas leur situation. Le livre de Job est peut-être l'exemple le plus éminent de cet homme qui perd tout, qui est dans une souffrance atroce et qui crie à Dieu, qui essaye de se démener avec ce qu'il connaît de Dieu, sa foi dans le vrai Dieu et ce qu'il vit. Et il ne voit pas comment ça tient ensemble et il crie à Dieu. On le voit dans de nombreux psaumes. Des psaumes où l'auteur crie à Dieu. Crie à Dieu, il ne comprend pas ce qui se passe. Et je sais que parmi nous, plusieurs ont traversé des tempêtes et certains sont même encore dans la tempête, en ayant des proches touchés par la maladie. Certains ont connu de multiples décès dans leur famille ces derniers mois, ces dernières années. D'autres ont des problèmes de santé chroniques sans aucune amélioration. D'autres connaissent ou ont connu la précarité matérielle. Et certainement bien d'autres circonstances que je ne connais pas et qui peuvent faire émerger des doutes, des questionnements. Pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières? Pourquoi Dieu ne développe pas telle ou telle situation? Quelqu'un m'a encore écrit cette semaine un message où la personne m'exprimait ce combat spirituel. Il m'a écrit « Dieu m'a oublié dès ma naissance ». Il y a un psaume particulier de cette lutte, de ce combat de la foi, c'est dans le psaume 73. On va en lire quelques extraits. Et l'auteur dit « J'étais sur le point de perdre pied. J'étais sur le point de me balancer par-dessus bord la foi, autrement dit. » Dans ce texte, il s'indigne de la réussite du méchant. Pour reprendre la terminologie des psaumes, ceux qui sont sans foi ni loi, qui ne respectent pas Dieu. Psaume 73, c'est page 702 dans les Bibles rouges de l'Église, donc on ne va pas le lire entièrement. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Il affirme. Pourtant, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent, rien de plus, et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la tranquillité des gens méchants, etc., etc. Il y a ce cri du cœur, mais où est Dieu? Nous avons chanté dans le premier chant d'aujourd'hui, « Quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, » Et l'auteur du chant nous invite à s'accrocher à Dieu et à bénir son nom. Mais ce n'est pas facile quand ma vie traverse un désert. Il y a l'autre couplet du chant, quand la vie semble me sourire, tout va bien. Peut-être on est prompt à dire merci Seigneur, tu es merveilleux, etc. Mais quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, quand le ciel semble silencieux, quand Dieu ne se montre pas, il y a besoin des yeux de la foi pour croire qu'il ne t'a pas abandonné, pour croire qu'il a des plans en réserve. Que Dieu va prendre soin, que Dieu est là en dépit des circonstances, en dépit du fait qu'on ne le voit pas. Dans la suite du psaume 73, on avance un petit peu plus loin. Verset 16, « Je me suis mis à réfléchir pour tenter de comprendre. Cela était pour moi un sujet de tourment jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu. Alors, j'ai réfléchi au sort qui les attend, etc. » Il était dans ce tourment. Il s'est mis à réfléchir. Il est allé dans le sanctuaire de Dieu. Il est allé se réfugier en Dieu. Et c'est là qu'il a trouvé le refuge dont il avait besoin, le repos dont il avait besoin. Que le Seigneur donne la foi et la patience. Il est dit dans l'épître aux Hébreux, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Et dans l'Ancien Testament, combien de fois il est question de ces hommes et ces femmes qui attendent Dieu, qui attendent longtemps, qui ne voient pas venir ses promesses. On parlait d'Abraham tout à l'heure. Il a tout essayé parce que ça ne venait pas, les promesses de Dieu. Il m'a promis une descendance, il m'a promis que je deviendrai une nation, ça n'arrive pas. Il a essayé de trouver des stratagèmes, ses solutions à lui. Mais Dieu le faisait patienter pour accomplir son plan en son temps. Foi et patience, c'est de ça dont nous avons besoin. Nous avons dit que les Israélites sont restés 400 ans en Égypte. Combien de temps sont-ils restés dans cette situation d'esclavage, d'oppression exactement? 400 ans. C'est pas un an, deux ans, trois ans. Je vous invite à terminer notre lecture en prenant dans Exode chapitre 2, versets 1 à 10. On revient au début. Exode chapitre 2. Un homme de la tribu de Lévi épousa une fille de la même tribu. Elle devint enceinte et donna le jour à un fils. Elle vit que c'était un beau bébé et le cacha pendant 3 mois. Quand elle ne parvint plus à le tenir caché, elle prit une corbeille en papyrus, l'enduisit d'asphalte et de poix et y plaça le petit garçon. Puis elle déposa la corbeille au milieu des gens sur la rive du Nil. La sœur de l'enfant se posta à quelque distance pour voir ce qu'il adviendrait. Peu après, la fille du pharaon descendit sur les bords du fleuve pour s'y baigner. Ses suivantes se promenaient sur la berge le long du Nil. Elle aperçut la corbeille au milieu des joncs et la fit chercher par sa servante. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui et dit « C'est un petit des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant s'approcha et dit à la fille du pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle l'allaite cet enfant ?» La fille du pharaon lui dit, « Va !» La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La princesse lui dit, « Emmène cet enfant et allaite-le pour moi. Je te paierai un salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du pharaon. Celle-ci l'adopta comme son fils et lui donna le nom de Moïse. Sorti. Car dit-elle, je l'ai sorti de l'eau. Dieu semblait absent, mais la suite du texte et tout le texte en filigrane nous montre que Dieu règne en dépit des apparences. Il agit en coulisses. Le pharaon a beau chercher à déployer ses projets malveillants, à détruire ce que Dieu est en train de construire, à détruire son peuple, il ne peut rien, parce que l'Éternel est le maître de l'univers, il est le maître de l'histoire avec un grand H. Il veut mettre à terre ce peuple trop nombreux, le pharaon. Eh bien, celui-ci se multiplie. Et le texte répète ce multiplia. Il voulut les soumettre à un dur esclavage, mais le peuple se multiplia. Etc, etc. Il veut mettre à mort les nouveau-nés. Eh bien, les sages-femmes honorent Dieu en n'agissant pas selon l'injustice. Elles sont bénies, elles se multiplient. rien n'y fait. Dieu accomplit ses plans. Il accomplit ses plans au moyen de quelques femmes courageuses et pleines de foi dans ce texte. D'abord, ces sages-femmes, on ne sait pas vraiment si elles sont hébreues ou égyptiennes, mais en tout cas, elles craignent Dieu. Et elles agissent selon la justice et selon leur foi, au risque probablement de leur vie. Parce qu'elles ont dû certainement quand même déployer des arguments devant le pharaon pour défendre ce qu'elles étaient en train de faire. Et Dieu les a protégées. Donc ces deux sages-femmes qui étaient probablement les chefs des sages-femmes, on imagine bien qu'avec la population dont il est question, on n'a pas deux sages-femmes. Et puis ensuite, on a cette femme, au début du chapitre 2, cette maman, la suite du texte nous apprendra qu'elle s'appelle Liokébed, c'est la mère de Moïse, qui se confie en Dieu, qui va aller déposer ce coffre, ce panier sur le Nil, certainement en priant Dieu d'agir. Vous imaginez le cœur qu'elle a au moment où elle dépose son bébé sur le Nil. C'est terrible pour une mère. Et puis cette sœur, Myriam, qui agit avec tellement d'audace, de foi, c'est magnifique. Et enfin, la fille de Pharaon même, au milieu même de ce royaume égyptien où le Pharaon veut accomplir ses plans mauvais, au milieu même de sa maison, Dieu peut utiliser qui il veut. Sa propre fille, elle, n'entre pas dans ces plans-là, cette démarche, elle est émue de compassion lorsqu'elle voit cet enfant. Dieu est à l'œuvre, il est le maître de l'histoire, il contrôle tout, et tôt ou tard, sa volonté s'accomplira. Et ce qui nous est dit au début du chapitre 2, là, nous parle de celui qui deviendra le sauveur, celui qui est utilisé pour sauver Israël. Dieu agit en coulisses, mais il faut la foi et la patience pour le voir. Imaginez si vous êtes à la place de ces esclaves hébreux. Il faut beaucoup de foi pour se dire qu'ils vont s'en sortir. Ce désert semble peut-être interminable. Il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Au contraire, c'est encore plus obscur, on a l'impression. Alors je ne sais pas dans quelle disposition tu es, si tu traverses un désert. Mais si tel est le cas, Dieu te rappelle ce matin qu'il règne sur toute chose, sur toute circonstance, et qu'il est à tes côtés. Si ce Dieu est invisible, il est au contrôle, comme dans ce texte. Ses plans sont parfois insondables, incompréhensibles, invisibles. On n'a pas de visibilité. Mais Dieu est là. Celui qui va défendre son peuple de l'Égypte en envoyant bientôt des plaies, en ouvrant la mer pour laisser passer son peuple, en nourrissant son peuple au désert chaque jour, etc. C'est le même qui, des siècles plus tard, va relever de la mort Jésus le Messie, son fils bien-aimé, pour vaincre le mal et sauver son peuple d'un esclavage encore plus grand pour l'emmener dans une terre promise. Il nous est dit à son sujet, dans le Nouveau Testament, Dieu, ce fils Jésus-Christ, Dieu l'a élevé à la plus haute place. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quand on regarde l'état de notre monde, on a souvent le sentiment que l'injustice et le chaos dominent, ont le dessus. Et par la foi, nous pouvons nous confier en un Dieu qui est au contrôle, qui est souverain sur toute chose, en dépit des apparences, et qui veille sur son peuple, qui a un regard de compassion sur son peuple, on le verra dans le chapitre 2. Ils vont crier à lui, il va les entendre. Il a entendu leurs cris. Et dans le dernier livre de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, qui nous parle des derniers temps, les membres du peuple saint, qui ont été tués pour leur foi, s'écrit auprès du trône de Dieu d'une voix forte, « Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ?» Et lorsque l'oppression fait rage sur le peuple de Dieu, sur l'Église, aujourd'hui, le peuple de Dieu résiste parce que Dieu est là. Jésus a lui-même dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Personne ne peut toucher à la prunelle des yeux de Dieu, son église. Lorsque l'oppression fait rage, le peuple de Dieu résiste. Et encore aujourd'hui, dans les pays où l'oppression est la plus sévère, l'église tient et même l'église s'accroît. Prenons le cas de l'Iran, par exemple. Une république dite islamique qui ne laisse aucune tolérance religieuse pour qui que ce soit, en particulier les chrétiens. L'église grandit dans la clandestinité et des milliers de personnes viennent à la foi en Jésus-Christ, Jésus le Messie. Encore pire, encore plus sombre, on pourrait penser à la Corée du Nord, où un chef totalitaire exerce son oppression sur tout le peuple, et en particulier sur les chrétiens. Il est absolument interdit d'être chrétien, de posséder une Bible, de chanter un chant chrétien. Il faut garder pour soi, même sa propre famille, qu'on est chrétien. Sinon, on risque de terminer dans un camp de travail et de mourir de faim là-bas, ou pire encore. Mais l'Église de Dieu résiste. Et dans quelques années, lorsque ce régime va tomber, l'Église de Dieu va refaire surface et pourra dire que Dieu était là. Et pourtant, l'oppression est terrible. Mais Dieu veille. Dieu veille. Et on a besoin de nous rappeler de cela pour tenir bon dans l'épreuve. L'Éternel règne en dépit des circonstances, des apparences. Demandons-lui la foi et la patience. Il y a des moments où c'est dur. On est sur le point de perdre pied, comme dit l'auteur du psaume 73. Mais Dieu est là. Dieu va nous soutenir. Dieu va nous donner la force. Je termine avec une anecdote. Un journaliste posait cette question à Billy Graham, qui était un homme de Dieu qui a parlé de Jésus-Christ sur à peu près tous les coins de cette planète. Et il était dans son grand âge et le journaliste lui demande « Mais qu'est-ce qui fait que vous gardez cet optimisme-là ? Vous gardez cet espoir, vous êtes là alors que voilà, le monde peut-être tourne pas rond ?» Et Billy Graham a répondu à ce journaliste: vous savez, tout au long de ma vie, j'ai lu plusieurs fois la Bible de A à Z, cover to cover, ils disent les Anglais, de la couverture là à la couverture là. Je l'ai lu plusieurs fois de A à Z, et je peux vous assurer que ça finira bien. Quelle espérance! C'est l'espérance que seul Jésus-Christ peut nous donner. Et on a besoin d'avoir ce message sous les yeux et de se le rappeler.